La République tchèque a été élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vendredi dernier à New York. Candidate en compagnie de la Roumanie et de la Géorgie, la République tchèque, pour laquelle le respect des droits de l'homme fait partie des priorités de la politique étrangère, a obtenu pour les trois prochaines années une des deux places du groupe de l'Europe de l'Est au sein du Conseil. Ancien ambassadeur en France, Pavel Fischer est aujourd'hui le directeur politique du ministère des Affaires étrangères. Il en a dit plus à Guillaume Narguet sur cette élection et sur ce que seront les priorités de la République tchèque au sein de ce Conseil.
Miroir de la société.
Monsieur Pavel Fischer, tout d'abord, que signifie et que représente cette élection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la République tchèque ?
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est une instance relativement récente, c'est-à-dire elle existe depuis 2006 et c'est la première fois que nous avons remporté des élections. Nous avons été déjà membres au tirage au sort en 2006-2007. Mais cette fois-ci, c'était une vraie campagne. Et si vous relisez et revoyez les possibilités que ce Conseil a pour intervenir, pour nommer des responsables, voire pour montrer des injustices et des situations de manque de respect des droits de l'homme, vous vous rendez compte que malgré une certaine lourdeur administrative, c'est quand même un instrument assez efficace.
La République tchèque a bénéficié lors du vote de 148 voix sur un total possible de 191. C'est un nombre relativement important. Si je ne me trompe pas, la diplomatie tchèque savait qu'elle pouvait compter sur un nombre de 140 voix avant le vote. S'agit-il donc, selon vous, d'une reconnaissance du travail accompli justement par la diplomatie tchèque sur le terrain des droits de l'homme depuis plusieurs années? On sait que le pays possède plutôt une bonne réputation en matière de droits de l'homme.
Dans la logique de la diplomatie multilatérale au sein de l'ONU, vous devez toujours vous méfier des chiffres, car les promesses, les garanties que certains pays vous donnent pour vous accompagner dans une certaine candidature ne sont jamais définitives quelque part. Et c'est pour ça que nous avons souhaité être sûrs que nous avons le potentiel de remporter. Ainsi, depuis plusieurs mois, nous avons travaillé un peu partout dans le monde pour être en position de gagner, de remporter. Et c'est vrai que nous avons déployé beaucoup d'énergie parce que il fallait être sûr que nous allons arriver en première place. Cette fois-ci, nous avons vraiment réussi. Donc c'est un beau résultat. Il n'a pas été donné, mais nous nous réjouissons de cette confiance qui nous a été apportée.
Justement, concrètement, quelles ont été les démarches entreprises auprès des autres pays pour qu'ils vous accordent leur voix?
Notre ambition, c'est, et vous l'aviez rappelé tout à l'heure, c'est de renouer avec le travail et l'engagement que notre pays a pris de par le monde en faveur des droits de l'homme. C'est peut-être d'ailleurs intéressant de constater et d'observer que les droits de l'homme et l'engagement en faveur de leur promotion constituent une véritable trame d'action politique de notre pays qui n'a pas vieilli depuis 1989 et les grands moments portés et incarnés en particulier par des gens comme Václav Havel ou Peter Pithart et Iri Dinsbir et bien d'autres. Et donc, c'est un engagement dans la durée qui renoue avec une certaine sensibilité qui a été cultivée, présente, malgré le régime totalitaire avant 89. Aujourd'hui, pour le Conseil des droits de l'homme, nous sommes arrivés avec des ambitions de mettre en place de telles procédures que ce Conseil puisse être vraiment actif, car peu importe nos idéaux, nous sommes souvent à table avec des pays qui ont une vision différente des choses et parfois qui transgressent des conventions, voire qui se moquent des droits de l'homme dans leur universalité. Et c'est d'ailleurs notre accent sur la liberté religieuse, sur le combat contre la torture, en faveur de la liberté de la parole, en faveur des droits d'enfants, ou bien tout court en faveur de la société civique et des acteurs, des porteurs des droits de l'homme dans des pays où l'oppression est présente, qui nous a apporté un tel consensus. Et donc, nous nous sommes quelque part engagés et obligés de répondre à cette confiance.
Vous l'avez dit, au sein donc du Conseil des droits de l'homme, qui est composé de 47 pays, figurent un certain nombre de pays où les droits de l'homme ne font pas partie des priorités, c'est le moins qu'on puisse dire. On pense à Cuba notamment, mais il y a aussi des pays comme l'Angola, la Chine ou encore la Russie. Il y avait même la Libye qui est actuellement suspendue. Qu'est-ce que la présence de ces pays vous inspire?
Vous savez, il faut jamais fermer la porte au dialogue. Et d'ailleurs, c'est le rôle de la diplomatie et c'est le rôle aussi des organisations distinctes non gouvernementales qui travaillent dans ces pays, avec ces pays, et qui voient qu'il y a toujours des germes non seulement d'espoir, mais aussi d'une réalité qui repose et qui transmet cet idéal dans les actes quotidiens. Et si je vous apporte un exemple par rapport à ça qui date des années 70. Rappelez-vous que dans le processus de Helsinki, avec ce panier, comme on l'appelait, des valeurs et des droits de l'homme, peu importe qu'au début c'était aperçu quelque part comme une ambition complètement irréelle et irréalisable, ce panier des droits de l'homme a réussi de pencher même les dictatures les plus dures en faveur d'une certaine ouverture que nous avons vu éclore en 1989. Donc, je crois qu'il ne faut pas désespérer. Dans les pays que vous avez cités, voire que vous n'avez pas cités et qui n'ont pas des références des meilleurs en matière des droits de l'homme et de leur respect, il ne faut pas non plus baisser les bras. Il y a toujours des arguments, il y a toujours des situations dans lesquelles on peut agir. D'ailleurs, je vous rappelle à titre d'exemple que la Libye a été suspendue unanimement au sein de ce Conseil des droits de l'homme. C'est un exploit. Imaginez-vous quel était le dilemme des pays qui n'ont pas le respect des droits de l'homme parmi leurs priorités et qui ont dû trancher, si oui ou non, arrêter la Libye dans son activité au sein du Conseil. Donc je crois que c'est un instrument, comme bien d'autres, mais un instrument qui a une potentialité intéressante et nous sommes très heureux comme diplomates représentant la République tchèque et d'ailleurs représentant la communauté européenne de pouvoir travailler sur ce beau chantier.
Dernière chose, nous avons parlé du respect des droits de l'homme, de par son expérience, son passé totalitaire, le soutien à la démocratie et l'aide à la transition pour les pays ayant connu un régime totalitaire font partie depuis plusieurs années des priorités de la politique étrangère tchèque. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de l'application de cette politique?
Vous savez, nous avons ici une équipe des gens qui travaillent dans une logique d'accompagnement des transformations. Et ce sont des gens qui, souvent dans des régimes très difficiles d'accès, ont réussi à tisser des liens et travaillent directement ou souvent indirectement en faveur des gens qui s'engagent, qui sont souvent emprisonnés. Donc on aide par exemple les familles des détenus. On aide aussi dans leur situation en parlant de leur condition qui est souvent complètement contradictoire avec le respect des droits de l'homme, des détenus, d'un procès juste. C'est d'ailleurs en rappelant les principes et les engagements internationaux d'un tel pays qu'on peut faire changer des choses. Nous travaillons, par exemple, dans des situations presque de clandestinité, dans certaines zones du monde où on ne voit pas, depuis Bruxelles ou depuis Prague comme capitale, bien comment les choses se passent dans l'ombre. Et si vous regardez, par exemple, comment une autorité parmi d'autres, mais qui a quand même une voix unique dans ce genre-là, qui est Aung San Suu Kyi, en Birmanie ou en Myanmar, comme on dit aujourd'hui. Aung San Suu Kyi a remercié à plusieurs reprises la République tchèque, et en particulier M. Václav Havel, qui accompagne depuis de longues années son combat en faveur de la liberté politique et du respect des droits de l'homme dans son pays. Donc vous voyez, par ce combat, vous rapprochez des gens qui partagent le même idéal dans des situations parfois très dangereuses, où ils mettent en danger leur vie, la vie de leur famille. Et quelque part, être sur le terrain à leur côté est quelque chose de merveilleux, parce que vous voyez que des paroles et des déclarations peuvent avoir un impact très réel et très direct dans la vie quotidienne des gens.